La dernière émission que nous avons faite avec Stéphane Michaud et moi a porté sur Fourier. Nous avons démantelé un peu le sujet dans la mesure où nous ne sommes plus à confronter l'attitude des romantiques. Stéphane Michaud est professeur à l'université de Dijon et a fait une thèse sur le romantisme. Nous ne sommes plus à confronter le romantisme à Fourier. Et au cours de cette émission, Bernard Noël, nous nous sommes aperçus qu'il y avait là une contradiction historique amusante, sur laquelle on n'avait peut-être pas beaucoup insisté. Contradiction qui oppose, dans un même moment, presque la même année, la publication de L'attraction passionnée et puis l'apparition des romans de Hölderlin, et nous sommes en plein romantisme. Il y avait là une contradiction qui nous a amusés. Notre entretien d'aujourd'hui, Bernard Noël, nous pourrions l'inscrire dans la ligne de l'émission précédente. Mais que je dise d'abord à nos auditeurs que Bernard Noël, outre le grand poète qu'il est, il a publié Le Château de Seine et Le Lieu des Cygnes aux éditions Pauvert, est en même temps un homme qui étudie Bataille, dont il connaît bien l'œuvre. Et c'est à ce titre, surtout, que je lui ai demandé de venir aujourd'hui. Je préviens mes auditeurs que Bernard est un ami, et nous allons donc nous tutoyer, si tu veux bien. Bernard, tu m'as dit avoir lu l'ouvrage de Madame Xavier Gautier, qui s'appelle Surréalisme et sexualité, qui est sorti aux éditions Gallimard. Et si tu veux bien, ce sera, si tu veux, le prétexte de notre entretien d'aujourd'hui. Ce livre, moi, m'a beaucoup intéressé, bien que j'ai quelques, ou même plus que quelques critiques à lui faire, une critique de fond. Je pense qu'elle a un peu circonscrit son problème, son débat autour du surréalisme. Mais enfin, elle explique, au fond, cette idée très simple, que les surréalistes se sont mis en contradiction avec eux-mêmes, en défendant l'idée de l'amour fou, en même temps qu'en proclamant la liberté et en même temps qu'en se proclamant des révolutionnaires. Je schématise beaucoup, mais enfin, c'est le thème de son livre. Qu'il y ait certainement un lien, et c'est évident, un lien entre la conception que l'on se fait de l'amour et l'évolution d'une société, c'est certain. Mais Xavier Gautier prétend que l'idée de l'amour fou défendue par les surréalistes, par Breton, n'a été exprimée par eux que dans leurs écrits, mais que dans leur vie, elle s'est amusée à les prendre comme cela par surprise. Elle explique que dans leur vie, ces hommes n'ont pas du tout mis en application les conceptions qu'ils avaient défendues dans leurs ouvrages. Qu'est-ce que tu penses de la thèse de Madame Xavier Gautier dans son ouvrage sur ce
Marc,
point?
elle attaque moins la vie privée des surréalistes que leur conception philosophique, si tu veux, ou idéologique quant à l'amour. Je veux dire que si tu vas à une époque où on est pour la libération des femmes, où Xavier Gautier, j'imagine, milite au MLF, enfin j'en sais rien, elle est extrêmement gênée par l'attitude, enfin par la façon dont les surréalistes considèrent la femme. C'est-à-dire qu'il, si tu veux, dans la mesure où ils la vénèrent absolument, où ils, par exemple, ils ont chanté interminablement la femme enfant. Quoi qu'on en pense, la femme enfant est une femme objet, donc ne saurait être une femme libre. Je ne dis pas femme libre au sens forcément liberté sexuelle, mais simplement dans le sens de traiter la femme comme une égale. Tu parlais tout à l'heure de Fourier et des romantiques, et de l'opposition qu'il y avait entre eux, mais les surréalistes sont les héritiers à la fois, enfin se sont voulus en tout cas, enfin, sont naturellement les héritiers des
Oui.
romantiques et se sont voulus en plus les héritiers de Fourier. Enfin, ils ont essayé d'assumer une contradiction entre cette espèce de tradition de l'amour courtois, je ne sais pas comment le qualifier, de l'amour
Oui, d'abord courtois.
vénération transcendantale, etc., et l'amour à la Fourier qui est un amour, comment dire, enfin vu à travers une transformation de la société. Il est vrai que les surréalistes ont toujours associé les mots, par exemple, amour et révolution, liberté et amour. Enfin, il y a un bouquin de Desnos qui s'appelle La liberté et l'amour. Il y a un livre d'Éluard qui s'appelle L'amour, la poésie. En fait, toute leur activité a été, enfin, comme si l'amour avait été le moteur de toute leur activité. Je pense que c'est ça que Xavier Gautier met en question.
Et puis elle met en question aussi l'attitude que les surréalistes ont à l'endroit de la femme, qui, dans leur esprit, dit-elle, reste toujours la femme soumise, la femme objet, tu le disais, mais alors que Fourier, lui, a voulu et a clamé le droit à l'égalité totale, ce contre quoi les surréalistes s'insurgent, au fond.
Enfin, dans l'opposition qu'il y a entre les romantiques et Fourier, on peut finalement voir la même entre les surréalistes et Bataille. À l'époque même où le surréalisme était le plus florissant, si tu veux. À partir de 1929, Bataille a dirigé une revue qui s'appelait Documents et qui a été un peu le pendant adversaire de la révolution surréaliste. Et dans Documents, Bataille a écrit un texte qui me paraît très significatif qui s'appelle Le Gros Orteil. Et il y fait l'éloge du Gros Orteil par rapport à la figure, si tu veux. C'est-à-dire que où Breton et les siens chantent la beauté, l'élévation, etc., Bataille chante le bas. Et il oppose, avec une espèce de malin plaisir, ce qui est bas à ce que les surréalistes considèrent comme haut.
Oui, bon. Avant d'aller dans cette voie, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière. Il y a eu un conflit ouvert entre les surréalistes et Georges Bataille. C'est l'affaire de contre-attaque qui fait partie de l'histoire littéraire. Mais je voudrais qu'on insiste d'abord, avant d'en arriver au Gros Orteil, je voudrais qu'on insiste d'abord sur le fait que Georges Bataille n'a pas négligé pour autant une réforme, le lien qui unisse la vie sexuelle à la réforme de la société. C'est toute l'affaire de la part maudite. Mmh. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu de cette histoire du potlatch?
Non, mais il y a plusieurs temps, disons. Si tu veux, il est important de poser la conception surréaliste de l'amour. Il est important de poser celle de Bataille.
Voilà. Et ensuite,
je crois qu'il est aussi important de poser leur rapport.
Voilà.
Donc, dans un premier temps, Bataille est un peu indifférent à l'égard du surréalisme. Donc, si tu veux, de l'amour fou. Dans un deuxième temps, il est intéressé, intrigué. Enfin, surtout grâce à son ami Léris, il fréquente un peu Breton. Mais les surréalistes sont des gens extrêmement lancés. Ils ont beau contester la société, ce sont des gens à l'époque extrêmement lancés, extrêmement parisiens, qui forment une espèce de secte de beaux jeunes hommes dédaigneux. Et ils accueillent assez mal Bataille, qui est qui a l'air un peu provincial, timide. Il n'est pas plus provincial qu'eux d'ailleurs, mais disons qu'il est timide et un peu moins bien habillé. Ce qu'à l'époque, on pardonnait pas. Et puis
il y a aussi une incompatibilité d'humeur entre Breton et lui. Oui. Hein.
Puis il commet la gaffe alors que les surréalistes ne buvaient que je ne sais plus quel apéritif, d'en commander un autre, ce qui est extrêmement mal vu.
Oui.
À part ça,
leurs conceptions de l'amour ne sont pas encore incompatibles.
Non, enfin ils n'en parlent pas.
Ils n'en parlent pas, on élude.
Mais ensuite, si tu veux, Bataille va faire une psychanalyse et publier sous un pseudonyme l'Histoire de l'œil, qui est sans doute un des livres fondamentaux, de l'érotisme contemporain, du XXe siècle.
Quelle est la réaction de Breton à la publication de l'Histoire de l'œil?
Elle est inconnue.
Elle est inconnue. Bon, mais je t'ai interrompu.
Mais je pense qu'elle a dû être extrêmement méfiante, sinon... ce livre a dû le révulser pas mal, parce que Breton avait un côté... Ça durera pendant toute leur vie, si tu veux. Breton a été extrêmement attiré ensuite, à partir des années 43 ou 44, par Bataille. Mais après la publication de l'Expérience intérieure, il a souvent recommandé en privé la lecture de Bataille, de ces livres-là, de Bataille, je parle de l'Expérience intérieure et du Coupable. Mais il n'est jamais revenu sur la condamnation qu'il avait prononcée contre Bataille dans le second manifeste du surréalisme, où il l'avait accusé d'être quelque chose comme un rat de bibliothèque, un fouineur de poubelles. Enfin, c'est à peu près ça, et ça doit être à peu près l'effet que lui a fait l'Histoire de l'œil.
Donc, Bataille vient de publier l'Histoire de l'œil. Et Breton n'en parle pas. Sur quoi repose, au fond, finalement, leur désaccord? Ça n'est pas sur ce livre, c'est sur une conception de l'existence différente. Cette conception de l'existence différente chez les deux êtres a-t-elle l'amour pour principe, pour raison, pour...
Non, mais si tu veux, elle n'a pas seulement l'amour pour raison, l'amour est une composante, disons, de tout un ensemble idéologique. Pour Bataille, si tu veux, les surréalistes, il s'est exprimé très clairement, ce sont des emmerdeurs idéalistes. Et pour les surréalistes, Bataille est une espèce de matérialiste grossier qui n'a rien compris. Enfin, ça, c'est la position vers 1930. Je crois qu'elle est assez capitale parce qu'elle commande ensuite toute leur évolution. Et si tu veux, pour en revenir au livre de Xavier Gautier, par exemple, je crois que Xavier Gautier se tient un peu du côté du Bataille de ce temps-là. Je veux dire qu'elle considère que ces surréalistes qui ont chanté l'amour ont chanté en quelque sorte une forme démodée de l'amour, où la femme n'est pas sujet mais objet.
Une forme romantique.
Romantique de l'amour, et où, si tu veux, bien que les surréalistes soient révolutionnaires, enfin incontestablement, aussi bien dans leur vie que dans leur œuvre, que dans leur attitude en général, leur conception de l'amour ne l'est pas. Pourquoi ne l'est-elle pas? Sans doute uniquement à cause de cette façon de mettre la femme sur un piédestal au lieu de la traiter à la fois en compagne et en égale. Ceci dit, il faudrait peut-être définir ce qu'on entend par amour, par révolution, etc.
Eh bien, ce que les surréalistes entendent par amour, on le sait, c'est l'amour fou. Ce qu'ils entendent par révolution, c'est plus compliqué. Ce sont tout l'affrontement de Breton avec le Parti communiste, tel qu'il le décrit dans le deuxième manifeste. Et là, sur cet aspect politique de la question, on voit mal ce qui, finalement, sépare Breton de Bataille. Au fond, d'ailleurs, ils se sont finalement, après s'être évités, retrouvés dans une opposition au nazisme.
C'est-à-dire que fin 35, début 36, il y a eu un moment de réconciliation et la création d'un mouvement commun qui s'appelait Contre-attaque, qui était purement...
dirigé contre le nazisme.
Un mouvement de protestation des intellectuels contre le fascisme en général.
Et là, le terrain était assez facile, on pouvait facilement se retrouver sur ce terrain-là.
Malheureusement, au bout de très peu de mois de rencontres, Breton a fait échouer, apparemment volontairement, ce mouvement commun au cours d'une réunion où il a réuni un maximum de gens qui lui étaient favorables pour condamner le groupe Bataille comme déviationniste et quasi-fasciste. Bizarrement.
Sur quel prétexte cette contre-attaque?
Bataille était très fasciné par Nietzsche, comme tu sais. Et je pense qu'à l'époque, Nietzsche devait paraître extrêmement douteux à Breton et aux surréalistes. Enfin, à ce moment-là, dans la mesure même où tout le mouvement nazi s'en réclamait, ce qui n'était pas...
Bon, mais alors venons-en maintenant aux conceptions politiques des uns et des autres. La part maudite dans laquelle Bataille a fait le compte de son attitude après avoir lu Mauss, quelle a été la réaction des surréalistes à la publication de la part maudite?
Mais si tu veux, au moment de la publication de La Part Maudite, les surréalistes existaient toujours en tant que groupe, mais c'était le groupe d'après-guerre où il ne restait pratiquement que Breton. Enfin, si tu veux, et des jeunes gens qui épousaient presque systématiquement les opinions de Breton. Et Breton, je t'ai dit tout à l'heure, a toujours évité de prendre position à l'égard de Bataille, sauf en privé, et donc en parole, si tu veux. Alors que Bataille a... Enfin, ce qui fait aujourd'hui problème, finalement, c'est que Bataille, dans Critique, dans le numéro 2 ou 3 de Critique, et dans l'expérience intérieure, a dit que tout son travail se situait dans l'accès du surréalisme. Donc, si tu veux, la tentation d'associer Breton et Bataille vient de là, je pense. Alors qu'il me semble que, en effet... Enfin, l'œuvre de Bataille n'est pas anti-surréaliste, mais se situe dans un dépassement du surréalisme qu'a appelé Breton, mais qu'il n'a jamais reconnu.
C'est ça. Dans La Part Maudite, arrête-moi si je me trompe, ou si je schématise trop, Bataille défend sa fameuse conception du potlatch, cette surabondance à laquelle, de par notre nature simplement, nous sommes... nous sommes presque conviés. Il explique que la nature prolifère avec une générosité considérable et que cette prolifération de biens, à un moment donné, il décrit cette route au départ de ce livre, cette route dont on a, qu'on a désherbée et qui de nouveau retombe à l'abandon et il parle de cette surabondance d'herbe qui finit par envahir cette route. Et de la même manière, il établit un rapport entre le comportement des êtres humains et le comportement de la nature. Il parle de cette surabondance amoureuse qui est le propre de notre nature.
Finalement, le potlatch consistait dans des sociétés indiennes, enfin d'Amérique du Nord, à faire un don soit à une tribu rivale, soit à un élément quelconque, par exemple à la mer, si tu veux. Et le potlatch consistait à faire un don qui engageait l'existence de la tribu. Je veux dire que, par exemple, si on avait fait une bonne récolte, on offrait l'essentiel de la récolte. C'est-à-dire qu'on se condamnait à la ruine pour un beau geste, comme
ça. On s'abandonnait à la ruine pour un beau geste. Est-ce que ça n'est pas l'idée même que Bataille se fait de l'amour? Cet abandon à la ruine, à quoi vous conduit l'amour? Simplement pour la beauté du geste.
Oui. Alors, si tu veux, là, il faudrait peut-être définir. Mais cette beauté du geste débouche donc sur un au-delà.
Voilà.
Enfin, un au-delà de la possession. Je veux dire sur un dépassement de la possession, plutôt. Donc, et ce dépassement de la possession, c'est peut-être ce que Bataille appelle le sacré.
Le sacré.
Alors, peut-être pourrions-nous définir, si tu veux, à la fois ce qu'est l'amour et ce qu'est le sacré.
Eh bien, voilà.
Alors, si tu veux, la définition que je vais donner n'est pas une définition de Bataille, mais disons, on peut la déduire. Enfin, il me semble que l'amour est un... Comme le sacré sont des hybrides. Enfin, j'explique ce que je veux dire par hybride. Si tu veux, l'hybride est un... En quelque sorte, un monstre né du croisement de deux espèces qui normalement ne se croisent pas, pour en créer une troisième qui normalement ne devrait pas exister. Et il me semble qu'on pourrait dire, si tu veux, que tout ce qui est divin, enfin tout ce que les hommes ont appelé divin, est justement une hybridation monstrueuse qu'ils ont créée. Je veux dire que Dieu, par exemple, est doté de toutes les qualités de l'homme, plus une, c'est qu'il est immortel. Alors si tu veux, l'hybridation, au fond, consiste... Enfin, si on regarde chacune de ces choses qui ont l'air abstraites quand on leur donne simplement leur nom, l'amour, je veux dire, si on ne se contente de le nommer, c'est finalement quelque chose d'abstrait, le sacré aussi. Or, l'amour est, si tu veux, l'hybridation qui naît de la conscience de la mort et du désir de lutter contre cette mort. Il fallait inventer quelque chose pour dépasser la mort, pour dépasser notre condition, tout en vivant intensément cette conscience. On pourrait dire que je sais que je meurs, mais c'est ça qui me fait vivre, et le fait que je sais que je meurs rend ma vie d'autant plus précieuse et d'autant plus intense. Et l'amour, au fond, assume ce mouvement entre entre la mort et la contestation de la mort. Alors le sacré, de même, enfin, se situe, il me semble, au croisement de l'imagination et de la sexualité. L'imagination est ce qui fait que nous nous projetons en avant, et la sexualité est ce qui fait que nous nous connaissons en tant qu'individu, en tant qu'espèce.
Il a dit d'ailleurs, à un moment donné, « Ma vie n'a de sens qu'à la condition que j'en manque. » Donc cette mort, ce vers quoi l'amour nous conduit, on a l'impression que Bataille cherche à la transgresser. Et c'est au-delà de cette mort dont l'amour nous rapproche, c'est au-delà de cette mort qu'il a dépeint le sacré. Qu'il appelle le sacré.
Si tu veux, à la fois l'amour nous en rapproche, mais l'amour nous aide à la dépasser. Ce qui est essentiel, au fond, la différence essentielle entre Bataille et les surréalistes, c'est que finalement, les surréalistes ne parlent pas de la mort. Enfin, la mort, la mort, c'est le sale. Le sale, on n'en parle pas. Alors Bataille parle de préférence du sale, parce qu'il s'agit d'assumer le sale lui-même. Si tu veux, tous les romans de Bataille, bizarrement, sont construits comme des... Enfin, je pense pas que ce soit du tout par provocation qu'on y boive beaucoup, qu'on s'y roule dans l'ordure, etc. Enfin, c'est un mouvement, enfin, c'est presque un symbole de dépassement à chaque fois.
C'est ça.
C'est uniquement, je veux dire, un symbole de dépassement. Une illustration du même problème est donnée par l'or, d'ailleurs, aussi bien dans l'histoire d'une petite fille que dans le sacré. Enfin, elle-même a intitulé un bouquin le sacré, ce qui est un comble, au fond, dans notre sens.
Pour ce qui est de l'or, alors je pense qu'il faut préciser qu'il s'agit d'une femme que Georges Bataille a passionnément aimée, qui s'appelait l'or, qui se trouve avoir été ma tante. Et récemment, j'ai publié ses écrits qui, jusqu'alors, étaient restés inédits. Eh bien oui, la transition est bonne. Je prétends que Georges Bataille a eu pour l'or une véritable passion. Donc, il n'est pas exclu que l'amour ait fait partie intégrante de la vie de Georges Bataille. Alors,
non mais ça,
prenons, oui.
Ça, on n'en doute pas, si tu veux. Mais au fond, peut-être on peut mettre l'accent sur ça. Si tu veux, Bataille ne met pas l'accent sur la passion. Les surréalistes mettent toujours l'accent sur la passion. Mais est-ce que la passion et l'amour, c'est la même chose, à ton avis ?
Mon opinion dans cette affaire importe peu. Ce qui compte, c'est l'opinion de Bataille. Je prétends que, pour Bataille, l'amour, la passion, est une composante indispensable de la sexualité. Et qu'elle ne se conçoit pas sans amour. Et que le véritable plaisir ne se passe pas de passion et d'amour.
Non, mais peut-être que ni la sexualité ni la passion, si tu veux, ne sont... Enfin, plutôt la sexualité et la passion sont des composantes de l'amour, mais est-ce qu'elles sont tout l'amour ? C'est peut-être ça le problème. Si tu veux, si, quand j'essayais de le définir tout à l'heure comme une hybridation entre finalement la conscience de la mort et le désir de durer, si tu veux, comme le croisement de ces deux choses contradictoires, c'est évidemment pas non plus tout l'amour. Mais c'est peut-être la dimension en plus, enfin la dimension dans laquelle se développe et la sexualité et la passion. Maintenant, il y en a peut-être une autre qui est, si tu veux, pourquoi, enfin, que signifie l'amour ? C'est la tentation de se confondre avec quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui peut être, qui est matérialisé dans la personne d'un autre, enfin de l'autre sexe, si tu veux, mais qui est la tentation de l'unité. Alors cette tentation de l'unité, si tu veux, il me semble qu'elle est double elle aussi. Elle existe entre toi et celui que tu aimes, mais elle existe aussi entre toi et toi. Je dis ça en pensant au « je est un autre » de Rimbaud. Enfin, si tu veux, tout se passe dans la vie comme si si celui qui dit « je » en soi rêvait d'assumer l'autre, et l'autre qui vit dans nos rêves, en quelque sorte. Alors je me demande si l'amour n'est pas une façon de transposer le problème de ce « je » est un autre entre soi et l'autre qu'on aime. Oui. Tu vois, donc c'est la tentation de l'unité reportée de l'intérieur à l'extérieur. Et je me demande si ce n'est pas là, en cela, que l'amour est révolutionnaire, si tu veux, parce que cette tentation d'unité, enfin, on a vu ça un peu en mai 68, si tu veux, enfin, c'est un peu grossier comme comparaison, mais la révolution est ce qui fait tomber le ghetto qui existe entre les êtres. Et l'amour est aussi ce qui supprime le ghetto.
Et Georges Bataille insiste tout au long de son œuvre sur cette idée de la transgression. Il faut toujours transgresser quelque chose. Et c'est pourquoi il en arrive à cet érotisme extrême. Une fois qu'on a renversé une barrière, il faut en trouver absolument une autre, faute de quoi on n'atteint pas à ce « je est un autre ».
Mais ça, remarque, dans son désir de transgression, il y a un petit côté de catholique qui n'en revient pas ou qui n'en est jamais tout à fait revenu. C'est-à-dire qu'il s'agit de pécher pour dépasser toutes les barrières.
Eh bien oui, mais une fois qu'on les a toutes dépassées, il faut bien en trouver une autre, et encore une autre.
Non, mais la barrière essentielle, c'est la mort.
Et la barrière essentielle étant la mort, oui.
Donc, celle-là, elle est insupprimable.
Et pourtant, on a l'impression que toute sa vie passionnelle est justement la vie d'un homme qui frôle la mort.
Il la frôle. Si tu veux, c'est ça la transgression aussi, c'est de frôler la mort, enfin de risquer la mort plutôt, pour la dépasser en quelque sorte. C'est-à-dire, si l'on risque la mort, on n'a plus peur de la mort, donc on la dépasse quelque part.
Transgresser la mort. Bien justement, cet univers qui se trouve au-delà de cette mort, même de cette mort fallacieuse, que l'amour, c'est ce que Bataille a appelé le sacré. C'est ce qu'il traque, c'est ce sacré. Est-ce que tu as, pour finir, un mot à nous dire sur ce sacré de Bataille?
Je crois finalement que le sacré, l'amour, la poésie, c'est la même chose.